Bonsoir, la République démocratique du Congo n'est pas le Yémen, mais les révélations faites il y a une semaine par le bureau du programme alimentaire mondial en RDC les rapprochent profondément. En effet, le PAM RDC a révélé qu'environ 13 millions de Congolais vivent en ce moment dans une insécurité alimentaire extrême, dont 5 millions d'enfants. Cette agence onusienne prévient aussi que les évaluations en cours montrent que la tendance à l'aggravation de l'insécurité alimentaire se poursuit en RDC et que cette crise alimentaire congolaise est la deuxième crise alimentaire dans le monde en termes de gravité après celle du Yémen. Une autre institution qui ne fait pas dans la dentelle, c'est l'Assemblée provinciale de Kinshasa qui, à peine installée, a interpellé plusieurs mandataires de la capitale sur leur gestion de la législature passée. Certains sont suspendus et d'autres arrêtés. Pour évoquer ces sujets, nous accueillons Élisée Odia, journaliste à Congo Web Télévision et 7sur7.cd, un site d'actualité. Élisée Odia, bonsoir. Et Alain Botoko, bonsoir.
Bonsoir Donat, bonsoir Alain, à Dumbashi et à Élisée Odia.
À Kinshasa, journaliste, photographe, reporter indépendant. Et enfin, celui que vous évoquiez il y a un instant, Alain Samuel Tshibata, directeur général de Hope Channel Radio, émettant de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Alain Samuel Tshibata, bonsoir.
Bonsoir mon ami, bonsoir Élisée Odia, également bonsoir Alain qui nous écoute ce moment.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission. Et pour bien alimenter nos débats de tout à l'heure, voici la revue de presse.
Commençons cette revue de presse par la nomination des dirigeants de quelques entreprises publiques. Parmi ces personnalités élues du chef de l'État, Actualité.cd relève le nom d'Albert Yuma Mulimbi, le président de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, qui a été reconduit à la tête du conseil d'administration de la GECAMINE par le président Félix Tshisekedi. Ce dernier a également nommé Sama Lukonde à la direction générale de cette entreprise minière. Politico.cd parle de l'autre nomination, celle de Gabriel Kyungwa Kumwaza, nommé président du conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer du Congo, avec à sa tête Fabien Moutombe comme directeur général. Sur la nomination de Gabriel Kyungu, CongoProfond.net évoque l'émotion qui a gagné cet opposant dit Haut-Katanga, qui a réagi en ces termes. Je suis ému, je ne peux pas décevoir celui qui a mis sa confiance en moi. Je suis très ému, c'est une très grande marque de confiance. Je ne peux que remercier les chefs de l'État pour ça. Avec ces nominations, la prospérité imagine que le gouvernement tant attendu depuis la prise de fonction le 24 janvier 2019 du président Félix Tshisekedi ne va plus tarder. C'est le porte-parole du chef de l'État qui l'a précisé à travers un média international en déclarant que l'annonce du gouvernement pourrait, sauf changement de dernière minute, intervenir au courant de la semaine, précise le journal. Changeons de chapitre pour parler de cette alerte du programme alimentaire mondial sur la crise alimentaire en RDC. Environ 13 millions de Congolais vivent dans une insécurité alimentaire extrême, dont 5 millions d'enfants. Des chiffres avancés le week-end dernier par les représentants du programme alimentaire mondial en RDC. Il a averti que les évaluations en cours montrent que la tendance à l'aggravation de l'insécurité alimentaire se poursuit en RDC. Il a aussi affirmé que la crise alimentaire qui sévit en République démocratique du Congo est la deuxième crise alimentaire dans le monde en termes de gravité après celle du Yémen, peut-on lire sur RadioCapi.net. Autre sujet d'actualité, c'est la suspension du député provincial Mike Mukibai, exclu temporairement de l'Assemblée provinciale. Casinfo.ca indique que l'ex-journaliste Mike Mukibai, député provincial de Lingwala, a été exclu de l'Assemblée provinciale pour une durée de 12 mois après l'avis de la plénière exécutée par les bureaux de l'organe délibérant de la capitale. Concernant cette exclusion, Actualité.cd ajoute que ces émoluments seront retenus pendant 12 mois avant d'évoquer cette petite réaction du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godin Poyi, qui a dit, je cite, « Personnellement, ensemble avec mes collègues députés, nous avons décidé de moraliser la vie politique. Je crois que la procédure est avancée. L'autorisation de poursuite a déjà été donnée. » Les victimes ont déposé leur plainte, avait dit ce dernier à Actualité.cd.
Élisée Odia, journaliste à Congo Web Télévision et à 7sur7.cd. Nous attaquons dans quelques instants nos deux sujets prévus tout à l'heure. Mais avant, un autre sujet que vous souhaiteriez peut-être nous partager en entrée de jeu, si vous en avez un.
Oui, j'en ai un et on est en train de travailler sur ça avec le site 7sur7.cd. C'est la sensibilisation par rapport à l'épidémie Ebola. Et j'en profite profite de votre radio pour rappeler qu'il y a un travail de fond qui doit être fait par rapport à ça. Ebola nous concerne tous. Ebola ne concerne pas que les gens qui sont dans l'Est de la République. Ebola concerne tous les Congolais et nous devons nous impliquer pour essayer de mettre fin à cette épidémie qui en passe d'être la plus longue d'Ebola ici en République démocratique du Congo. Il faut qu'on puisse approprier cette lutte, dire à nos frères et à nos sœurs qui sont à Beni, Butembo, à Ituri, qu'il faut se protéger. Ebola n'est pas une invention politique, Ebola n'est pas né d'une conspiration. Ebola tue, Ebola n'a pas de visage humain. Ça peut prendre le visage de ton frère, de ta sœur, de ta mère. Et Ebola, il faut que tous puissions lutter contre ça. Et c'est dans ce cadre que le site Média en ligne 7 sur 7 et moi avions mis en place une série de vidéos que nous essayons de mettre sur la toile pour interpeller les gens. Et là, on fait parler les gens de toutes les tendances politiques, justement pour essayer de leur dire à ces gens-là que ce n'est pas une politisation et que ça existe. Mais nous faisons également intervenir les gens de la société civile, les gens de l'Église, mais également les anonymes. Tous ceux qui ont un message à dire par rapport à cette épidémie, nous avons besoin de vos sons, besoin de vos vidéos pour sensibiliser nos frères et surtout dire à nos frères et à nos sœurs qui sont de l'autre côté que nous sommes de cœur avec vous. Le problème, on pourra après parler de comment faire en sorte qu'il n'y ait plus d'Ebola dans toute la République démocratique du Congo, mais pour l'instant, on parle de plus de 213 décès avérés, c'est énorme. Plus de 2000 cas des personnes atteintes, c'est énorme. Pour l'instant, on sensibilise, on demande aux uns aux autres de s'impliquer pour qu'on ensemble puissions mettre fin à cette épidémie.
Tout à fait, Élisée Odia, cette émission se joint donc à votre initiative pour rappeler que Ebola peut arriver dans toutes les parties de la RDC et attaquer tout le monde. Donc, nous devons nous sentir tous concernés. Merci pour ce message. Alain Botoko, journaliste, photographe indépendant, votre commentaire libre.
Je voulais un peu revenir en arrière sur les obsèques de Étienne Tshisekedi, qui était un homme particulier. Ce monsieur, quand il mourait, 3 jours après, j'étais dans ses studios et je disais qu'il était un homme pas comme les autres. Et je crois que l'histoire me donne raison parce qu'il a fait plus de deux ans dans le frigo et les obsèques qui se sont passés ici à Kinshasa, c'était particulier. Mais moi, j'étais moi-même au stade. Ce que j'ai retenu, c'est le 3 messages que le combattant de l'UDPS ont lancé. Un, ils l'ont lancé à Joseph Kabila et ils l'ont dit que trop, c'était trop, qu'il devait prendre retraite.
Me rappelons ici que Joseph Kabila n'est plus président de la République.
Bien sûr.
Et que pour ses obsèques, on n'a même pas vu l'ombre de sa photo.
Bien sûr, les combattants chantaient ça. Et ils ont aussi lancé un mot à Félix en lui rappelant qu'il devait poursuivre ce que le père a commencé, le peuple d'abord. Et je crois que c'est une grande responsabilité pour tous ces leaders, pour qu'ils comprennent que le temps du changement est arrivé et que le peuple veut vivre effectivement comme tout le monde vit, parce que la vie au Congo est complexe, il y a trop de maladies qui n'existent plus ailleurs, qui existent ici, notre environnement est très menacé et je crois que le moment est arrivé où nous devons travailler dans l'unisson. Et effectivement, les leaders ont cette grande charge de porter ce pays, de le porter haut et d'oublier un peu les querelles et de caler, comme le disait le quinoa.
Et une autre interpellation donc. Samuel Chibata, directeur général de Hope Channel Radio, émettant de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Votre avant-goût informationnel.
Ici à Lubumbashi, la seule nouvelle que je sais qu'il y a une partie ici à Lubumbashi dénommée USMP. USMP, qui est l'Union des Églises Chrétiennes et Ministères pour la Paix. C'est une plateforme des hommes des dieux, les leaders religieux, qui sert juste pour faire la paix. Et donc, ils sont en train, n'est-ce pas, de se réunir régulièrement chaque lundi. Ils sont en train de faire ce qu'ils appellent l'analyse des contextes, où ils analysent les informations, les nouvelles de la province, aussi du pays. Ils font également les recommandations. Et c'est d'après le président de l'USMP, Monseigneur évêque Willy Pongo, il dit que cette plateforme a pour mission, n'est-ce pas, de consolider la paix entre les leaders chrétiens et serviteurs de Dieu vivant en RDC, et lutter également contre toute forme de déviation par rapport à la parole de Dieu, mais aussi comment est-ce que ces serviteurs de Dieu peuvent orienter les présidents, les dirigeants du pays. Avec votre autorisation, Dona Mazimba, je vais également commenter la nouvelle par rapport aux enfants de la rue. appelé ici vagabond. Ces systèmes qui restent encore face à Lubumbashi, vous allez vous rendre compte que, si tu connais bien la ville de Lubumbashi, au niveau du tunnel, il y a les enfants qu'on appelle enfants de la rue, dont l'âge varie entre 5 et 10, 11 ans, filles et garçons, qui dorment à la belle étoile. Mais je me dis, Seigneur, où vont les fonds alloués au service du social? Dans les années 2015-2014, il y avait une maison qui était construite du côté Kassapa, la prison, pour encadrer ces enfants. Et ces enfants étaient très bien encadrés, mais à un certain moment, on s'est rendu compte que ces enfants revenaient encore sous la rue, et ça devient une situation inquiétante à Lubumbashi.
Merci Alain Samuel. Vous nous parliez tout à l'heure d'enfants. Permettez que nous puissions justement parler tous ensemble un peu d'enfants dans notre premier sujet de ce soir. Environ 13 millions de Congolais vivent dans une insécurité alimentaire extrême, dont 5 millions d'enfants justement. Déclaration faite le week-end dernier par le représentant du Programme alimentaire mondial en République démocratique du Congo qui a averti que les évaluations en cours montrent que la tendance à l'aggravation de l'insécurité alimentaire se poursuit en RDC. Il a aussi affirmé que la crise alimentaire qui sévit en RDC est la deuxième crise alimentaire dans le monde en termes de gravité avec celle du Yémen. Les détails avec Paul Matindo.
Selon le représentant du PAM en RDC, les nombreux conflits qui secouent le pays depuis plus de 2 décennies et qui ont connu une intensification depuis 2016, notamment dans l'Est et le Sud-Est, ont provoqué un déplacement dramatique de populations rurales qui vivent de l'agriculture. Les paysans en RDC mangent par ce qu'ils peuvent cultiver et récolter, mais comme nous avons eu jusqu'à 4,5 millions de personnes déplacées dans ces zones rurales, ce sont des gens qui n'ont pas pu continuer à cultiver. Cela a continué pendant plusieurs saisons agricoles et la situation s'est détériorée avec le temps, a expliqué Jibidar lors de cet entretien avec ONU Info. Pour répondre à cette crise, le PAM continue de renforcer son aide alimentaire et nutritionnelle en ciblant 5,1 millions de personnes cette année, dont 1,5 million reçoivent une assistance nutritionnelle. L'agence se concentre notamment sur l'aide aux personnes déplacées en visant les sites de déplacés, mais aussi les sites de retour.
Élisée Odia, journaliste à Congo Web Télévision et 7sur7.cd, journal en ligne, la République démocratique du Congo, officiellement en bonne partie dans l'insécurité alimentaire. Est-ce crédible cette révélation ou un peu exagérée quand même selon vous?
Je ne pense pas parce que j'estime que ce travail a été fait de comme un accord avec certains services du gouvernement. Il y a eu des descentes sur terrain. Je crois que le PAM ou la représentation du Programme mondial de l'alimentation des Nations Unies ici ne l'a pas fait seul. Donc il y a eu quand même cette participation du gouvernement congolais. Ce n'est pas une invention, c'est réel. On peut le voir peut-être pas ici à Kinshasa, mais à l'intérieur du pays, ça s'y vit. C'est le quotidien. J'ai eu un peu l'année passée, je ne veux pas dire le bonheur, mais j'étais dans l'occasion d'arriver dans des secteurs, dans des territoires comme Bikoro. C'est là où vous voyez qu'effectivement, cette problématique d'insécurité alimentaire est réelle. Quand vous arrivez dans le Kasaï, là, on a cessé de dire que, surtout par rapport aux enfants, c'est vraiment réel. On vous dit toujours par rapport à ces statistiques, il y a un enfant sur 10 qui meurt avant d'atteindre l'âge de 5 ans, ici en République démocratique du Congo. Donc, ce sont des chiffres qui sont réels et qui doivent interpeller un pays qui se veut émergent. Pour un pays qui veut parler développement, il doit d'abord parler de l'alimentation, parler de quoi son peuple mange. Qu'est-ce qu'il mange? Est-ce qu'il le mange bien? Je crois que les populations aujourd'hui qui ont réussi, ou les pays qui ont réussi qui parlent aujourd'hui, qui sont aujourd'hui développés, sont les pays qui ont réussi
dans la sécurité alimentaire.
À endiguer la faim. À endiguer la malnutrition. Pourquoi? Parce que ça a des effets. Je donne un exemple. Je crois que le rapporteur, le représentant de PAM a eu à le dire. Ces enfants, 5 millions, qui sont mal nourris ou souffrant de la malnutrition.
Ou n'ont pas du tout accès à l'alimentation.
Ils n'ont vraiment pas accès à l'alimentation. Qu'est-ce que ça arrive? C'est-à-dire qu'ils constituent une charge pour leurs parents. Parce que quand tu es mal nourri, tu es
affaibli.
Tu es affaibli, tu es exposé à des maladies. Et les parents, non seulement doivent s'occuper de leur alimentation, mais également doivent prendre en charge ceux qui tombent malades. Et quand vous tombez malade, et la plupart, vous n'allez plus aller à l'école, vous n'allez pas étudier. Quand vous n'avez pas bien mangé et que vous êtes malade, l'éducation, c'est fini pour vous. Et du coup, ça prépare un état, devenant adulte, ces enfants-là ne seront pas productifs.
Alors, le PAM met en avant, comme cause de cette situation, les conflits armés, l'insécurité dans les territoires, dans plusieurs territoires de la RDC. Est-ce que cet argument est suffisant selon vous? Vous évoquiez Bikor tout à l'heure, qui est dans l'espace équateur. Dans le Kassai, on peut se justifier à cause des conflits Kamina, Sapou et autres, dans l'espace équateur, il n'y a presque pas eu de conflits particuliers ces derniers temps.
Mais c'est juste l'absence de cette politique agricole. On parle tous, on vous dit que 70% de la population congolaise est rurale. 90% de la main-d'œuvre congolaise est constituée dans l'agriculture. On a tout ce chiffre-là. On vous dit que la priorité, en tout cas, tous ceux qui se sont succédés à la tête de ce pays n'ont cessé de dire que l'agriculture est la priorité de priorité. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour cette agriculture? Et il y a cette manque de politique agricole, cette peur d'oser, au fait, d'amorcer des réformes assez courageuses par rapport à la politique agricole du pays pour effectivement faire de cette agriculture la priorité de priorité. Donc moi je trouve qu'au-delà de tout ça, au-delà de la problématique sur l'insécurité et tout ça, mais il y a l'absence d'une politique agricole, l'absence de courage de la part des autorités pour essayer d'amorcer des réformes, pour essayer d'engager le pays dans des projets porteurs ou projets permettant à ce qu'on ait une agriculture capable, parce que la plupart, qu'on se le dise, on ne fait qu'importer. Tout ce que nous mangeons en République démocratique du Congo, c'est pas ce que nous on produit, mais c'est pas parce qu'on produit, c'est pas ça. Mais et puis quand on parle de la production, on produit à quelle échelle? C'est-à-dire, il y a des petits lopins de terre, c'est largement suffisant. Et même ceux qui produisent, comment on fait pour les acheminer ici? Il n'y a pas de route. Il y a quand même deux secteurs assez transversales qui feront en sorte qu'ensemble, qu'ils puissent mettre une politique agricole assez efficace par rapport à ça, en mettant ensemble plusieurs secteurs de la vie nationale, le secteur routier, le secteur, je sais pas, maritime, tout ça, et par rapport également à la répartition des terres. Faut plus faire l'agriculture comme on le faisait jadis. Il faudrait mécaniser cette agriculture. Je suis pas pro cette agriculture où il faut utiliser tout ce qui est pesticides, mais au moins il faudrait qu'on sorte de cette agriculture archaïque, essayer de moderniser cela. Et pour cela, il faut qu'il y ait une politique. Pour qu'il y ait une politique, on doit voir ce que le gouvernement peut faire pour octroyer combien de parts revient à l'agriculture dans la loi budgétaire, quelle est la place de l'agriculture. Et tout ça, là, il faut essayer de parler de tout ça et voir comment est-ce qu'on peut évoluer.
Tout à fait, Lise Odia, nous revenons à vous tout à l'heure. Alain Botoko, journaliste, photographe, reporter indépendant. Tout à l'heure, Lise Odia a fustigé une absence de politique pouvant favoriser une abondance de nourriture auprès des populations. Vous pensez que la nourriture manque totalement ou il y a suffisamment à manger, mais c'est les infrastructures pour les acheminer auprès des populations qui font défaut?
Les deux à la fois. Il y a insuffisance d'infrastructures de base pour transporter le produit agricole là où ils sont produits pour les ramener dans les centres-villes et le coin où il y a un peu plus de population. Mais il y a aussi effectivement l'absence de politique effectivement pour l'agriculture. Moi je voulais un peu être plus technique. Donc notre pays, c'est quand ces informations circulent à travers le monde, mais le monde se moque de nous. Le monde ne comprend plus rien parce que nous avons 80 millions d'hectares de terres arables où on peut cultiver et nous avons un climat
favorable.
Le plus favorable qui n'ait existé au monde. Et à part ça, il y a 4 millions d'hectares de terres irrigables. C'est-à-dire que là, vous pouvez cultiver à toute saison, à tout moment, vous produisez ce qu'il faut produire. Et ça, quand l'humanité apprend, c'est dramatique. Et moi, je reviens un peu à la gouvernance qui a caractérisé toutes le 20 ou les 30 ou les 50 dernières années au pays. Cette gouvernance a été chaotique. Et moi, je crois que ceux qui ont géré ce pays dans le temps, qu'ils prennent conscience qu'ils ont laissé le pays dans une situation dramatique. On ne peut pas avoir 5 millions d'enfants qui ne seront plus utiles dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, parce qu'ils vont mourir dans peu de temps. Et 13 millions de Congolais vont aussi disparaître, ils ne pourront plus rien faire. Alors que vous vivez dans une mine d'or, ça ne s'explique pas. Donc, et moi je me dis, vous avez les anciennes 11 provinces dans la cartographie agricole, produisaient, chaque province avait sa particularité, a sa particularité de production. Donc sur le Bandoulou produit le manioc, le Kassai va produire le riz, et le Katanga ou le Kivu, ils vont produire les haricots. Et alors, s'il y a des infrastructures, s'il y a des routes qui relient toute notre nation avec 88 264 villages, si tous nous sommes reliés et que nous travaillons, nous avons une politique qui tient compte de toutes les réalités. S'il plaît au sud, au nord, il ne plaît plus, et s'il plaît au nord, au sud, il ne plaît plus. Donc, on peut cultiver tout ce qu'il faut pour nourrir nos populations.
Alain Botoko, voilà. Tout ceci, on ne peut le mettre que à l'actif de la gestion de Joseph Kabila, vu que tu sais qu'il n'est là que depuis 4 mois, c'est vrai, mais aussi à charge du régime avant lui. Est-ce que le problème ici, c'est une absence d'initiative, de politique, où on peut aussi considérer et mettre à leur décharge que l'insécurité, les conflits à répétition, l'activité permanente des groupes armés dans presque tous les territoires sont un peu à la base de ça.
Oui, l'insécurité, les conflits, mais aussi les petites guerres de partout où les groupes armés agissent comme ils se doivent, ne permettent pas aux mamans qui... Parce que notre agriculture est familiale, donc elle n'est pas industrialisée. Donc il faut que les gens soient en paix pour qu'ils cultivent, pour qu'ils aillent dans le champ, qu'ils aillent chercher ce qu'ils vont manger, ce qu'ils vont vendre. Mais il faut que ces gens aussi aient effectivement des infrastructures de base, les routes, les eaux qui sont navigables, les avions qui circulent. Voilà, il y a qu'au Congo où on peut voir ce que nous sommes en train de voir. Donc le pays, comme disait le pasteur Ekofo, bloque l'humanité, bloque l'Afrique, ne permet pas que l'Afrique soit épanouie parce que on n'a pas de route, on n'a pas de chemin de fer. Donc nous devons faire tout. C'est là que j'interpelle les nouvelles autorités. Moi, je me dis, est-ce que ce n'est pas aussi une grâce aujourd'hui d'avoir effectivement des autorités qui trouvent un pays à une situation chaotique. Donc il faut qu'ils prennent les choses à la main et qu'ils comprennent que les défis sont énormes, qu'ils agissent avec intelligence. Moi, je suis plus pour les ateliers, les conférences. Il y a toutes les données. Maintenant, il faut appliquer. Qu'est-ce que cet argent on met pour construire des routes de dessertes agricoles? Cet argent on met pour construire des ponts? Cet argent on met pour construire des routes pour les villes? Cet argent on met pour les bateaux? Donc moi, je crois que c'est qu'il faut. Le pays a besoin de ça. Et je salue effectivement l'initiative des sautes-moutons pour dégorger Kinshasa. Je crois que c'est ce qu'il faut faire. Il faut agir. Il ne faut plus attendre parce que la situation n'est pas bonne.
Merci. Avant cette émission, on pourra peut-être dire un mot justement sur ce nouvel élan qui est initié. Le nouveau président de la République a aussi un programme des 100 premiers jours, même si c'est déjà dépassé, lié aux infrastructures et autres outils pour pouvoir développer le pays. Alain Samuel Tshibata, directeur général de Hope Channel Radio, émettant de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga, y a-t-il, selon vous, suffisamment à manger, par exemple, dans l'espace Katanga profond?
Merci beaucoup, Adona Madimba, mais je voudrais faire un petit pas en arrière par rapport à ces chiffres. 13 millions d'habitants, 13 millions de personnes au Congo, en tout cas, c'est grand, c'est presque le Rwanda et demi. Moi, je trouve que le PAM a un tout petit peu exagéré. Je ne suis pas sceptique, mais j'ai un petit doute par rapport à ce chiffre. Mais je voudrais aussi rappeler qu'en dehors de ces 13 millions d'Ona Madimba, il y a aussi 27 millions qui ne mangent presque pas nécessairement à leur faim, et en termes de quantité ou de qualité.
Le programme alimentaire... Alain Samuel, oui. Voilà que vous-même vous donnez 27 millions qui ne mangent pas leur faim, c'est quand même beaucoup aussi. Mais si vous pensez que le PAM a exagéré dans les 13 millions, vous estimez à combien à peu près alors le nombre des Congolais qui seraient dans une crise alimentaire?
Écoutez, Adona Madimba, loin de moi l'idée de n'ose pas de rejeter en bloc le rapport du PAM, mais je ne saurais pas estimer personnellement parce que Vous imaginez, quand le programme alimentaire mondial avertit que les conditions de vie des Congolais se sont largement dégradées, je me dis que c'est en faveur de la crise politique de dernières années, avec la résurgence des conflits et des déplacements des populations congolaises. Et ce qu'on a aujourd'hui en RDC, c'est la conséquence d'abord d'une situation qui s'est détériorée grandement au cours de deux ou trois dernières années, avec une intensification des déplacements de la population de Namadiba. Les gens ici vivent de l'agriculture, bien sûr. Quand ils se déplacent, quelqu'un vit de l'agriculture, mais quand il se déplace, il va dans un autre village, une autre ville. Je pense qu'il ne pourra pas faire ce travail, il ne pourra pas cultiver, sachant qu'il a, je ne sais pas moi, 10 mois, 5 mois dans un coin, et la personne ne sera pas cultivée. Je me dis également que, donc effectivement, c'est une situation qui est grave. Ce qui est vraiment inquiétant, je pense que la conseillère Odia l'a bien dit, c'est que la situation touche particulièrement les enfants, avec 5 millions d'enfants qui souffrent de malnutrition, et dû d'ailleurs. Ce qu'il y a, c'est que ces enfants, non seulement ils sont malnutris, ils sont aussi les enfants qui sont un coût pour les parents, parce que de temps à autre, ces enfants tombent malades et les parents sont contraints de les amener à l'hôpital. Et si ces enfants survivent, je dis bien si ces enfants survivent, ils ne deviennent pas des adultes aussi productifs qu'ils ne pourraient pour leur pays. Et donc, ces 5 millions, c'est vraiment un investissement perdu pour le pays.
Alain Samuel, pour justement jauger un peu de la véracité de ce qu'a déclaré le PAM, mais aussi de ce que nous-mêmes nous affirmons sur ces antennes, pouvez-vous nous donner quand même une idée de comment les gens mangent ou ne mangent pas dans l'espace Katanga où vous êtes?
Et puis, Duna Mandimba, la situation, je pense qu'elle est réelle d'une façon ou d'une autre. Les gens mangent mal. Les gens mangent mal, parce que, on ne mange pas à sa faim. Soit, on pense qu'on mange bien. Quelqu'un peut se contenter de 5 ou 10 boules de boucari, mais avec un morceau de poisson fumé. Il pense qu'il mange bien, il mange beaucoup. Alors qu'il mange très mal. Voilà, les gens ne mangent pas du tout bien, notre ami Duna Mandimba. Mais je voudrais revenir un tout petit peu. La RDC devrait pouvoir produire plus qu'il ne consomme aujourd'hui. Si les villages étaient à débarrasser des groupes armés qui sont à la base de l'insécurité, cette insécurité, je me dis que c'est un montage de certaines personnes qui nous connaissent tous. Bon, des fois qu'on ne connaît pas, mais qui sont à la base de cette insécurité, qui sont en train de déplier les lits de mon pays. Malheureusement, je me dis que le gouvernement de notre président qui s'était dit a du pain sur la planche, moi je me dis tout ce que nous sommes en train de vivre, c'est le malheur que nous a laissé le gouvernement, les sénateurs, actuels sénateurs Kabila. Voilà les résultats, avec 13 millions d'habitants, les gens qui vivent de la malnutrition.
Merci.
Et donc le président qui... C'était dit, doit avoir la politique agricole, de distribution des ressources alimentaires, aussi apprendre à encadrer, n'est-ce pas, à tous les Congolais.
Merci Alain Samuel. On aura probablement, avant de boucler, le temps de donner les propositions pour sortir de ce genre de situation. Parlons à présent d'une institution de la RDC qui a décidé, elle, de sanctionner les mauvais dirigeants, justement, puisque nous touchions un peu du doigt tout à l'heure, les mauvais dirigeants congolais du passé. Depuis son installation, il y a quelques semaines, le bureau définitif de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a procédé à l'interpellation de plusieurs responsables provinciaux. C'est le cas, entre autres, du ministre provincial des Finances et du directeur général de la Direction générale des recettes de Kinshasa, Dejerkan en sigle. Ces responsables interpellés sont accusés, pour certains, de mauvaise gestion, d'abus de pouvoir ou encore d'outrage aux députés provinciaux. Blaise Makassi.
C'est avec l'interpellation suivie de l'arrestation il y a 2 mois de l'ancien président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa que la saga d'interpellation en cours actuellement dans cette institution a commencé. Il était alors reproché à Roger Singhi la détention illégale des biens de l'État, notamment plusieurs véhicules appartenant à l'Assemblée provinciale. S'en sont alors suivies l'interpellation de certains ministres provinciaux, dont le ministre des Finances. À Guy Matondo, il était reproché l'abus du pouvoir pour avoir contracté des dettes, notamment auprès de la Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK. Un dossier qui a poussé l'Assemblée provinciale de Kinshasa à entendre les directeurs de cette régie qui renvoya l'Assemblée provinciale à obtenir des explications auprès du ministre Matondo, déjà entendu notamment sur cette affaire. Ce qui poussa l'organe délibérant de Kinshasa à saisir le gouverneur nouvellement élu de Kinshasa, lui demandant de suspendre le ministre provincial des Finances, Guy Matondo, de ses fonctions. L'action la plus récente de cette Assemblée est la suspension momentanée, il y a quelques jours, du député provincial Mike Mukebai pour outrage à la plénière de cet organe délibérant. Une suspension fixée à une année.
Élisée Odia, nous venons là d'écouter un ramassé du travail en quelques semaines de cette nouvelle institution de la RDC. Votre analyse du travail de la nouvelle Assemblée provinciale de Kinshasa?
Oui, j'étais en train effectivement de réfléchir sur le travail de l'Assemblée. Comme un peu l'Assemblée nationale, l'Assemblée provinciale a comme premier rôle, c'est de mettre en place des lois. Si je ne me trompe pas, la législature où l'Assemblée provinciale passée n'a eu à émettre ou à voter, je crois, près de 3 édits seulement.
Donc,
trois édits, dont celui mettant en place la DGRK. À moins que je me trompe, je peux me tromper, mais c'est pas
cas,
cinq.
Il n'y en a pas assez.
C'est-à-dire la production au niveau législatif, elle était quasi inexistante. C'est-à-dire un pays dans un état qui se veut un état de droit, les lois ont primauté. Et doit être la priorité de nos assemblées. Après, viendra la vulgarisation, la mise en place. Mais là, je me rends compte. D'abord, premièrement, depuis que cette nouvelle assemblée provinciale est là, il n'y a pas eu d'initiative par rapport à la loi. Moi, ça m'inquiète. Au regard
ils n'ont pas encore voté d'édit.
Ils n'ont pas encore voté d'édit. Ils sont plus dans des attaques des personnes.
Ne fallait-il pas, quand même, dans un premier temps, faire un peu le bilan? C'est une espèce de façon de faire le bilan, non? En interpellant les anciens dirigeants.
Oui, mais en interpellant pour quelle finalité? Le bilan, c'est quoi? Le bilan, c'est 30 mois d'arriéré dont souffrent les membres des cabinets de ces différents ministères, des assemblées, ministères provinciaux.
Toujours à charge.
Mais justement, qu'a fait cette assemblée provinciale de Kinshasa par rapport à ces personnes? Quand ces personnes ont écrit, on leur a dit oui, on a juste parlé avec le nouveau gouverneur et il nous a dit que non, mais il n'y a pas une pression. Parce que derrière, ce sont des centaines de personnes qui attendent leurs arriérés. Derrière eux, ce sont des familles qui eux également attendent bénéficier. Je crois que la priorité devrait être là. Je reviens sur, par exemple, sur le cas Guy Matondo. Je me suis demandé, moi personnellement, comment suspendre quelqu'un qui était déjà en train de partir.
Mais qui était encore là.
Non, mais il était là pour quoi faire? Moi, je ne sais pas.
Ne fallait-il pas l'écouter?
Non, mais ce n'était pas la priorité.
Est-ce
qu'il l'a fait? On va nous dire aujourd'hui, oui, on a remis entre les mains la justice, mais je crois que c'est ce qui aurait dû être fait avant, au lieu de nous faire... Moi, je crois qu'on est... Je suis un peu partagée,
selon
assez mitigée.
Selon vous, un chronogramme type
on
de ce qu'aurait pu faire cette assemblée,
non, mais
quoi?
Je dis, commencer par faire des audits, par exemple, par rapport à la gestion du gouvernement passé.
C'est ce qu'ils font.
Des audits, pas en le médiatisant, c'est-à-dire vous faites des audits dans des commissions, et puis après vous allez rendre votre rapport à la population,
et puis après vous allez commencer
à dispatcher les charges, ou les bons ou les mauvais points selon vous.
Et il y a un travail de ça. Vous soupçonnez que tout ce travail qui est fait ces derniers temps, c'est pour sensibiliser la population favorablement.
Juste dire, mais ce qu'on attend, c'est un travail de fond, qui est des édits, qui est des lois, qui est une protection de ceux qui attendent leur salaire, qui est une protection de ceux qui ont eu à travailler. Donc il y a beaucoup de choses qu'on attend, qui est une protection que cette assemblée provinciale est en train justement de contrôler l'exécutif qui est en train d'être mis. Mais ils peuvent initier, il n'y a pas beaucoup de députés mais ils sont plus là à dire oui, on a interpellé tel, oui, et alors? Et après, il y a 18 millions qui ont été détournés. Oui, et après, on ne nous a pas donné la suite. Est-ce que se sont engagés à en rembourser? Dans quel délai? Et comment vont être redistribués, reversés ce 18 millions de dollars? Oui, on a accusé l'autre de DGRK d'avoir détourné. Oui, et après, on va nous dire cela justement. Mais je trouve qu'il y a un travail beaucoup plus important pour cette assemblée provinciale que de s'attaquer directement comme ça à des individus. il ferait mieux de s'attaquer plutôt à un système qui a rendu des pères des familles démunis, qui a rendu plusieurs personnes malheureuses, et c'est ce système-là qu'il faut attaquer. Tant qu'on règle juste avec des personnes et que le système reste entier, on n'aura rien fait.
Alain Botoko, vous pensez un peu comme Élisée Odia, que le travail très médiatisé de l'Assemblée provinciale actuelle aurait dû s'attaquer au système plutôt que, comme on a l'impression maintenant, une espèce de chasse à la sorcière.
Moi, je ne crois pas comme... je ne pense pas comme Élisée, mais je crois plutôt à une très bonne chose sur cette initiative de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Moi, je crois fermement que le pays a besoin d'hommes et de femmes exemplaires. Et Godin Poy peut être un parmi ces hommes-là. Élisée parlait tout à l'heure là que il faut donc le rôle de l'Assemblée, c'est faire des lois. On a plein de lois dans ce pays, mais qui sont pas appliquées.
Mais moi,
s'il vous plaît, c'est mon tour aussi.
Allez-y, Alain.
L'Assemblée provinciale, tout comme l'Assemblée nationale, ont comme rôle le contrôle de l'exécutif. Donc,
pour une assemblée qui n'a à peine proposé que maximum 5 lois, hein, il ne devrait pas en avoir plus. Est-ce qu'il ne devrait pas aussi accélérer le côté
Ils vont le faire, mais
laisse-moi
un peu retourner sur ce qu'ils ont fait. Vous trouvez normal qu'il y ait des individus qui sont ministres, qui gèrent de régies qui s'enrichissent comme que personne ne peut contrôler, que personne ne peut poser des questions, qui construisent des immeubles partout. Vous croyez que ça c'est une très bonne chose pour la nation? Moi je crois. Et ce qu'ils ont fait même avec notre ex-ami qui est devenu député, Mike. Vous pensez que vous êtes élu, vous êtes député, et vous commencez à raconter du n'importe quoi, comme si vous étiez un homme de la rue. Vous pensez que l'Assemblée ne pouvait pas sanctionner?
Le rôle d'un député n'est-il pas de pouvoir justement évoquer, dénoncer les situations pour lesquelles il n'est pas d'accord?
Parfait. Donc, vous pouvez l'énoncer, mais il faut être honnête sur tout ce que vous faites. Si on vous soupçonne vous-même que vous êtes aussi corrompu, que vous êtes corruptible, vous pensez que les gens vont vous prendre au sérieux?
Mais si un député provincial a l'impression que le président de l'Assemblée ou l'équipe dirigeante de l'Assemblée est aussi impliquée dans quelques malversations, est-ce qu'elle peut le dire ou pas?
Oui, il a le droit de le dire, mais il faut savoir le dire. Vous savez, on les appelle les honorables. Quand on est honorable, c'est-à-dire que vous êtes une personne, des chairpersons, comme on le dit en anglais. Donc, ce sont des personnes qui doivent protéger les personnes. Vous ne pouvez pas parler de n'importe quoi, vous ne pouvez pas dire de n'importe quoi, parce qu'il y a des instances qu'il faut discuter certaines choses en coulisses. Donc, il y a certaines choses qu'il faut discuter en coulisses quand on est à un certain niveau. Et moi, je crois que ce que l'assemblée de Kinshasa est en train de faire, c'est une très bonne chose. Si toutes les assemblées de nos 26 provinces, des 25 provinces qui restent pouvaient faire, et ça serait une très bonne chose pour le pays, parce que ce pays, je nous rassure, il faut qu'on change la façon de gérer. La gouvernance est très, 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 très mal conduite ici au pays.
Merci.
Et nous devons effectivement sortir de cette situation anormale pour booster un développement.
Merci Alain Botoko, Alain Samuel Tshibata. L'Assemblée provinciale de Kinshasa interpelle, pousse à des sanctions, mais après on ne récupère pas les sommes dont on dit qu'elles ont été détournées. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un goût d'inachevé dans ça?
Et Dola Madiba, je voudrais un tout petit peu revenir en arrière par rapport au propos de mon homonyme, Alain, qui vient de dire que la RDC a besoin de certains hommes exemplaires, dont l'actuel président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Mais non, sur base de quoi il fait ces affirmations gratuites? Quelqu'un n'a pas encore 5 mois à la tête de l'Assemblée, vous commencez à lui juger un homme exemplaire, je pense que c'est un peu exagéré. Je reviens à mon avis, je pense que l'Assemblée provinciale a une lutte vers le développement intégral de la province de Kinshasa, bien évidemment. Elle veut mettre de l'ordre dans la gestion de la chose publique. Elle veut aussi mettre fin à ce que j'appelle la gabegie financière. Ce sont les actes à saluer avec allégresse d'un côté. Mais d'un autre côté, Dona Madiba, est-ce que c'est pour des objectifs durables? N'est-ce pas un règlement de compte toutes ces interpellations j'arrive, sont-elles faites pour des questions politiques ou pour le but pédagogique ou pour salir ceux qui ont travaillé les années antérieures?
Quel est votre avis, Alain Samuel, sur ce questionnement?
Je pense que c'est un excès de zèle. Hein. Je pense que je suis en train de lire un excès de zèle dans le chef de députés provinciaux de la ville, province de Kinshasa, bien évidemment, parce que à mon avis, je pense que l'Assemblée provinciale de Kinshasa pourrait faire un flashback, bien évidemment, pour voir ce qui s'est passé dans le passé, permettre la tautologie, mais aussi juger sur les actions concrètes, surtout celles qui se passent actuellement, pour bien préparer l'avenir. Parce que si aujourd'hui l'Assemblée provinciale de Kinshasa risque d'exacerber les conflits, l'agitation politique, je sens déjà qu'il doit y avoir l'agitation les uns les autres. La nouvelle Assemblée provinciale de Kinshasa fait chasse à la sorcière.
Alain Samuel, est-ce que les Congolais ne sont-ils pas un peu versatiles? C'est-à-dire, ils aiment une chose et la détestent à la fois. Tout le monde demande des sanctions, mais une fois qu'il y a des sanctions, même quand elles sont sévères, tout le monde crie toujours au règlement des comptes et à l'exagération.
Mais moi, à mon humble avis, je pense que les députés sont en train de jeter l'opprobre sur leur propre institution. Parce que je me dis, tous ceux-là qui ont volé, bon, ils sont en train de jouer de la présomption d'innocence, tous ceux qui sont, qui sont interpellés, n'est-ce pas, ils ont travaillé pendant 5 ans, c'est toujours la même institution qui les gérait. Il y a des gens, il y avait les ministres de l'Intérieur, il y a des députés. Pourquoi tout ce temps, il n'y avait pas ces interpellations? Aujourd'hui, on commence à interpeller des gens, il y en a qui sont, jugés, je ne sais pas moi, voleurs et consorts. Moi, je me dis que, l'idée de laver ou d'être défenseur de ces gens-là, que je connais même pas personnellement, mais je me dis que c'est un excès de zèle dans le chef des députés provinciaux. Qu'on attend d'abord le gouvernement qui vient. Qu'on attend le gouvernement.
Alain Samuel, malheureusement, le temps nous tient à la gorge. Nous devons conclure cette émission. Alors, pour vous, que pouvons-nous retenir de ces deux thèmes que nous avons évoqués ce soir, brièvement, en 15 secondes?
Brièvement, concernant le premier thème, comme je le disais déjà, d'une manière anticipative, le président Tshisekedi doit faire une politique agricole qui puisse aider la population congolaise, parce que c'est un scandale, hein, c'est un scandale, vu que l'RDC peut nourrir tous les 5 continents, mais on dit que notre pays vit une insuffisance alimentaire. Et donc le président Tshisekedi doit voir le social pour que la population congolaise vive paisiblement en tant que tel. Concernant le deuxième sujet, je pense que les députés provinciaux doivent d'abord attendre le nouveau gouvernement qui va arriver et puis ne pas faire chasse à la sorcière.
Merci Samuel Alain pour votre intervention. Alain Botoko, son homonyme, très rapidement aussi, que peut-on retenir en conclusion?
Oui, il faut que le président Félix comprenne que dans le secteur de l'agriculture, il peut beaucoup tirer d'intérêt dans ça, parce qu'il va créer beaucoup d'emplois et le pays va vivre. Et je pense qu'il faut une politique qu'il faut pour ça. Mais aussi, il faut qu'il soit bien accompagné aussi avec des experts qui connaissent le pays. Il ne faut pas cultiver le maïs à Bandundu, comme on l'a vu avec Bukangaloso. Il faut le faire au Kasaï ou à l'Équateur. Mais le deuxième thème, qui est celui de...
Les interpellations par l'Assemblée provinciale de Kinshasa.
Les assemblées provinciales ne sont pas des juridictions. Donc, ils font leur travail. Je crois que c'est au procureur de notre République de pouvoir prendre le relais et pouvoir... effectivement, à interroger ces hommes et ces femmes, parce que c'est pas anodin, c'est pas innocent, ça, ce qu'ils sont en train de faire. Donc, ils ont des soupçons et qui sont vérifiables. Et c'est pour ça qu'ils interpellent.
Ils font ce travail-là. Merci, Élisée Odia. Honneur à vous, la seule dame de ce soir.
Ben, écoutez, par rapport à l'agriculture, moi, je demanderai aux actuelles autorités de la République d'en faire une priorité de priorité, pas sur papier, mais en agissant. On a besoin qu'ils agissent, parce que tout le monde ne cesse de dire c'est la priorité de priorité, mais ça va. Mais et par rapport à ce qui se passe à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, je dirais oui, on est pour le changement du système, pas nécessairement d'hommes, mais il faut que le système change. Et si ça peut faire tomber les hommes, tant mieux.
Vous l'aurez remarqué, il y a eu beaucoup de Alain ce soir pour la création de cette émission. À côté des deux Alain qui ont déjà parlé, il y a celui qui ne parlera pas, Alain Goy qui est à la technique, Kéline Kouté à la réalisation, Pélé Kipelamondo a fait la supervision, Dona Madimba c'est moi à la présentation. Tribune de presse, c'est fini pour ce soir. C'était agréable pour moi de vous la présenter. Merci de votre attention. Au revoir.